Salut et bienvenue sur Extra Coach, le podcast qui vous permet de libérer votre plein potentiel pour atteindre vos rêves et vos objectifs les plus fous. Je suis Chris Dalloz et je vous invite à me retrouver chaque semaine pour découvrir toutes les bonnes choses qui sont cachées au fond de vous. Salut à tous, comment allez-vous? Bonjour, eh bien il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, donc j'espère que tout le monde en profite correctement. Nous, on en profite assez et on s'éclate pas mal. On va parler une deuxième fois d'un sujet qui est très intéressant, qui est inaltérable, qui est la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Ça, c'est un sujet qui est très important parce que sans ça, eh bien, on ne peut pas avoir un équilibre. On est en complet déséquilibre et ça fout en l'air notre vie. Donc, c'est très important parce que on entend souvent parler de confiance en soi et d'estime de soi ou d'amour de soi aussi. Et on peut souvent entendre dire « un tel a drôlement confiance en lui et on admire » ou « on envie cette personne » ou bien « je manque vraiment de confiance en moi, c'est un problème d'estime de soi ». Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? En fait, l'estime et la confiance, ce sont deux notions qui permettent l'équilibre de notre mental, de nos humeurs. Ce sont des piliers fondamentaux qui permettent de nous sentir bien. C'est facile. C'est deux notions qui sont très proches. Et qui ont chacune leur particularité propre. Par exemple, la confiance, avoir confiance en soi, se trouve liée à un ressenti interne, qui est le sentiment de se sentir ou de se savoir capable de faire, être en capacité de faire. Lorsqu'on se sent capable de faire, on est en confiance. Alors ça peut être grâce à nos compétences acquises, un diplôme, une expérience, ou parce que l'on projette que la tâche à accomplir est à notre portée. Ça peut être un jeu... n'importe quoi d'autre, quoi. On sait faire, on est capable de le faire. C'est donc plutôt nourri par un ressenti qui est interne, qui nous est propre et qui vient de l'intérieur. Donc voilà pour la confiance en soi. Avoir confiance, c'est lié au sentiment d'être capable, de se savoir capable de faire. Lorsqu'on sait qu'on est capable de faire, on est en confiance. Au contraire, il suffit de penser qu'on ne peut pas faire et puis le doute s'installe et la crainte de louper apporte immédiatement un manque de confiance. Et on a tous vécu cette situation. Pour l'estime de soi, c'est un ressenti qui peut se nourrir aussi bien de l'intérieur, donc qui nous est propre et que l'on crée, que par un ressenti externe amené par les autres et surtout alimenté par l'intention que nous allons être capables d'accorder aux autres sur ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent de nous. Parce que l'estime de soi, c'est lié au sentiment ressenti de notre valeur effective perçue par nous-mêmes. Et de ce que l'on en perçoit, de ce que nous percevons de nous au travers des autres. Donc vous comprenez bien ici que notre estime peut être complètement liée à l'importance que je vais accorder au regard des autres. Et là, vous avez compris que l'idéal pour avoir une estime et une confiance en soi bien équilibrée, de pouvoir être le plus détaché possible de la façon dont les autres nous regardent et nous jugent. Ok, ça c'est important. Tout ça va nous amener à l'amour de soi et nous porte à un bon équilibre de l'amour que nous avons de nous-mêmes, ce qui est absolument pas égoïste, hein, avoir de l'amour pour soi, dire que l'on s'aime, c'est bien, c'est très sain, il faut le faire. Je m'aime, je me regarde dans le miroir le matin et je m'aime. Et c'est pas égoïste du tout, ça renforce notre confiance. Et c'est en nous autorisant justement à nous accepter tels que nous sommes et avec nos qualités, avec nos défauts, que ce soit des défauts physiques, des défauts intellectuels, que l'on va pouvoir avoir une belle image de nous et un bel amour de ce que nous sommes. Alors comment faire? Eh bien, l'estime de soi, ça fonctionne grâce à trois axes, eux-mêmes qui ont trois sous-ensembles, trois axes, qui sont aussi contenus par une donnée qui est quasi fondamentale, qui est, et ça c'est un point vraiment primordial, c'est notre capacité à avoir une flexibilité de pensée, à avoir une autre vision des choses. Si vous n'avez pas, ou surtout si vous ne vous autorisez pas à vouloir penser les choses d'une manière différente, alors ce que je vais vous raconter après, ce qui suit, aura beaucoup de mal à pouvoir s'appliquer. Donc pour avoir confiance et une bonne estime de soi, il faut un équilibre entre le rapport à soi, le rapport à l'action et le rapport aux autres. Estimer, ça vient du latin « estimare ». Et ça veut dire déterminer la valeur de et avoir une opinion sur. Donc déterminer la valeur de, avoir une opinion sur, c'est estimer. L'estime de soi, c'est donc estimer notre valeur et l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Et il faut commencer à comprendre petit à petit la différence entre la confiance, qui est alimentée donc plutôt par un ressenti interne, et puis l'estime, qui est plutôt alimentée par un ressenti en dualité avec l'interne, donc ce que l'on peut nous-mêmes penser de nous, et puis l'externe, les pensées, les opinions, toutes ces choses que l'on va juger positives ou négatives pour nous et venant des autres. Donc pour pouvoir alimenter un bon équilibre d'estime et de confiance en soi, il faut comprendre que c'est le rapport à soi, le rapport à l'action et le rapport aux autres, et faire en sorte de maîtriser cet équilibre au quotidien. Pour avoir une bonne estime de soi, il faut donc s'intéresser au rapport que l'on a avec soi-même, et le rapport à soi, comme je vous disais, ça comporte aussi trois axes. Il faut être honnête avec soi-même, ce qui va nous permettre de nous connaître, et donc on va pouvoir s'accepter tel qu'on est. Et ces trois points, être honnête avec soi-même, pouvoir se connaître et pouvoir s'accepter, ces trois points ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Donc je dois être capable d'être honnête avec moi-même pour pouvoir mieux me connaître, et lorsque je me connais, je peux m'accepter tel que je suis. Et là, on commence à comprendre le fonctionnement de la construction de la confiance en soi. Un autre axe inévitable pour construire estime et confiance, c'est le rapport que l'on va avoir aux autres. Je dois savoir m'affirmer, je dois savoir être empathique, et je dois savoir m'appuyer sur le soutien social, le soutien des autres. Savoir me demander l'aide aux autres, il n'y a pas de mal. J'ai besoin de m'autoriser donc à m'affirmer, je dois maîtriser l'empathie, je dois savoir comprendre l'émotion des autres, entendre l'émotion des autres, sans pour autant faire éponge avec leurs émotions. Ça, c'est l'empathie. À ne pas confondre avec la compassion ou la sympathie. Et pour avoir de l'empathie, je dois accepter de savoir écouter l'autre et de pouvoir, pour savoir écouter l'autre, je dois savoir me taire. Taisez-vous pour pouvoir écouter l'autre. C'est pas si simple, hein. Moi, je vais vous proposer, par exemple, un exercice ou une expérience. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui vous est proche, par exemple, ou que vous ne connaissez pas, on s'en fout, à la limite. Vérifiez si vous êtes capable de l'écouter sur un sujet qui vous tient à cœur. Il y a des choses que vous savez et que vous voulez argumenter. Mais voyez si vous êtes capable de l'écouter sans l'interrompre au bout de 20 secondes. Vous allez vous tenir pendant 20 secondes comme ça et sans l'interrompre en disant « oui, mais moi, je... » Et si vous arrivez à faire cet exercice pendant 20 secondes, si vous arrivez à ne pas interrompre l'autre pendant une vingtaine de secondes, eh bien, c'est formidable, vous savez être à l'écoute et puis vous savez communiquer correctement, parce que communiquer, c'est un échange. Donc le rapport aux autres, je m'affirme, je suis empathique, je dois accepter de pouvoir m'appuyer sur le soutien social, c'est-à-dire accepter d'avoir le droit de demander de l'aide à quelqu'un pour pouvoir faire avancer un projet ou avoir une idée, par exemple, ou pour répondre à une question. Et ces trois phases, dans le rapport aux autres, sont incontournables. Et puis, le troisième axe d'équilibre pour la confiance et l'estime de soi, c'est notre rapport à l'action. Et là, on aborde un domaine aussi qui explique la procrastination, le fait de reporter à demain, à un temps ultérieur, ce que je dois faire. Donc, je dois savoir agir, je dois donc faire des choses, mettre en place, être dans l'action. Je dois accepter l'échec et je dois savoir maîtriser l'autocritique. Okay ? Donc, je dois m'autoriser à faire. Comme je ne suis pas Superman, il y a des chances pour que dans tout ce que je réalise, dans toutes les actions que je vais mener, il y a certaines choses que je vais louper. C'est obligatoire. Hein. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entre nous qui ne faisons pas, par peur de louper, de rater ce que l'on va faire et du coup d'être exposé surtout aux remarques et aux critiques. Et de par ce fait, on va replonger dans un rapport parent-enfant où on se fait engueuler parce qu'on a dépassé le trait avec le crayon, vous savez, on n'a pas suivi bien la ligne, et on a dépassé, on se fait engueuler. Et c'est pour ça que l'on ne fait pas. Donc je dois savoir accepter de me tromper, accepter l'échec. Et puis je dois maîtriser l'autocritique, c'est-à-dire que je dois être capable de savoir m'évaluer, savoir pourquoi et comment j'ai fait une erreur qui a fait louper mon action. Et mieux je vais maîtriser tous les points que je viens d'énoncer, plus je vais renforcer mon estime et ma confiance. Parce que en maîtrisant ces points, je vais être capable de m'autoriser à agir souvent. Et plus je vais agir, plus je risque d'être confronté à des erreurs, mais j'en aurai de moins en moins peur, car maintenant je vais savoir comment et pourquoi je vais recommencer. Le point important, c'est que je vais être capable de recommencer, car je suis adaptable, je suis flexible. Ça, c'est très important. Je n'ai pas peur de voir les choses d'une manière différente. Ma plus grande force, c'est de savoir voir les choses sous un autre angle pour mieux comprendre le point de vue de l'autre. En faisant de manière différente, je sais que j'aurai obligatoirement un résultat qui va être différent. Et je vais dégonfler, je ramollis ma crainte de ne pas réussir parce que je sais qu'à chaque nouvel essai, je risque simplement d'ouvrir la porte magique, celle qui va réussir à fonctionner pour de bon à chaque fois que je vais essayer quelque chose de nouveau. Et là, c'est une confiance, c'est une estime qui est complètement boostée et que je garde bien avec moi. Ok ? Donc avoir une bonne estime de soi, avoir confiance en soi, c'est savoir estimer sa valeur, avoir une opinion de nous-mêmes qui est valorisante, connaître complètement nos capacités, nous aimer surtout tel que nous sommes, puisque nous nous connaissons et nous savons qui nous sommes et nous n'en avons pas honte, ça ne nous gêne en rien. Voilà, on sait qui on est, on sait s'évaluer et on s'accepte tel qu'on est. Donc il faut aussi connaître ses valeurs profondes pour savoir se respecter en suivant nos valeurs et puis savoir faire respecter nos valeurs par les autres. Ça, c'est un droit fondamental. Connaître nos valeurs pour pouvoir nous-mêmes les respecter et puis les faire respecter par les autres. Il faut être capable d'être en accord permanent avec nos valeurs, ce qui est vraiment primordial pour renforcer notre estime et la confiance en soi, les enfants. Ok ? Donc, nos valeurs, ça peut être le partage, l'amour, l'intégrité, la confiance, l'honnêteté, et puis bien d'autres. Ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est très large. Mais une fois que vous les connaissez, vous pouvez les défendre. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas les défendre. Vous comprenez maintenant le lien fondamental entre ces axes et l'équilibre de la confiance et de l'estime de soi. Lorsque je maîtrise moi, le rapport à moi-même, c'est-à-dire que j'ai pu être honnête avec moi-même parce que je me connais et je me suis accepté tel que je suis, ça me permet d'agir, ça me permet de pouvoir accepter l'échec tout en sachant de quelle manière je me suis trompé car je maîtrise l'autocritique. Je suis équilibré aussi avec mon rapport aux autres qui me permet de m'affirmer non seulement par rapport à moi-même, ce qui évite de reporter toujours ce que je dois faire à demain, mais aussi par rapport aux autres parce que j'ai de l'empathie. Je comprends les émotions et les sentiments des autres et je sais que j'ai le droit de m'autoriser à demander de l'aide si j'en ai besoin. J'ai le droit de faire ça. Comme j'ai un rapport aux autres qui est équilibré, je n'y vois aucun mal, j'accepte de savoir m'ouvrir aux relations autour de moi. Et ça marche aussi pour la relation de couple. Parce que je rencontre souvent des personnes qui ferment complètement leur relation sans s'en rendre compte, juste à cause du fait qu'ils ont peur de l'interaction avec l'autre. Donc ils préfèrent subir et être frustrés ou même... pour être plus radical, quitter la relation plutôt que de penser d'une manière différente en écoutant l'autre et puis proposer une action différente. J'imagine que aussi vous avez tous en tête l'échec comme quelque chose d'énorme, de grave, de sérieux, de catastrophique, alors que on peut considérer une toute petite action loupée comme un échec. Il y a une métaphore que j'aime bien, j'aime beaucoup vis-à-vis de l'échec, qui est celle-ci. Par exemple, on a tous des actions qu'on a pu louper. Et ces actions, ça peut être des toutes petites choses. Par exemple, il nous est tous arrivé un jour ou l'autre de prendre un verre, une bouteille d'eau, de verser de l'eau, et puis il y a une seconde d'inattention, on loupe le verre, on renverse de l'eau. Ok ? On peut considérer ça comme un échec, non ? Et là, je vous entends dire, vous allez me dire, non, mais c'est pas une catastrophe, ça, c'est pas un échec. Alors déjà, c'est formidable, je vous remercie, parce que vous êtes capable de dire que l'échec n'est pas une catastrophe et j'espère que vous allez pouvoir vous souvenir de cette phrase toute votre vie. Donc effectivement, c'est tout simplement quelque chose qu'on a loupé et qu'on peut refaire. Ça, c'est important. Puisque j'ai un bon équilibre du rapport à l'action, je sais apporter ma critique sur ce que j'ai fait et je sais que je vais pouvoir recommencer. Alors ça paraît tout con parce que l'exemple, c'est le verre d'eau ou une bouteille. Ok ? Mais ce dont je vous parlais au début, c'est ces trois axes, le rapport à soi, le rapport à l'action, le rapport aux autres, ne sont rien s'ils ne sont pas contenus dans quelque chose de fondamental, qui est cette capacité à avoir une vision des choses qui est différente le plus souvent possible, c'est-à-dire avoir un esprit qui est flexible et adaptable pour pouvoir recommencer d'une manière différente. Parce que si je reprends une citation qui a été prêtée à Monsieur Einstein, le copain des Rolling Stones, il disait qu'en recommençant tout le temps de la même façon, eh bien on obtenait toujours le même résultat. Donc je ne pense pas qu'il soit bête, le garçon. En recommençant tout le temps de la même façon, on obtient toujours le même résultat. Donc si je veux obtenir un résultat différent, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois agir simplement d'une manière différente. Et pour pouvoir agir d'une manière différente, je dois avoir la capacité d'être toujours à même de pouvoir penser différemment. Il faut que je puisse m'autoriser à penser différemment. Si on reprend l'exemple du verre, si j'ai renversé de l'eau à côté du verre, c'est que ma bouteille, elle était pas bien alignée correctement avec le verre. Donc si je veux, pour la fois suivante, mettre de l'eau dans le verre, ben, je vais tout simplement décaler un petit peu mon goulot ou mon verre plus en face, au-dessus du verre. Et là, je suis certain que l'eau va verser dans le verre. Okay? Et je peux faire ça pour toutes les actions que je loupe. Tout, je peux refaire. Si vous avez la capacité d'accepter de louper de l'eau dans le verre, vous êtes capable de le faire pour toutes les actions que vous pouvez louper. Que ce soit dans votre couple, que ce soit au travail, que ce soit avec votre famille, eh bien, vous ne verrez plus du tout ça comme des échecs catastrophiques, mais vous allez être capable de relativiser pour pouvoir vous poser et recommencer d'une manière différente. Et là, mais ça vous change complètement la vie, ça vous change la vie. On est tous capables de faire, on est tous capables de réussir. Si vous vous entendez dire « je ne suis pas capable », « je ne suis pas capable », c'est le signe du travail de votre ego qui vous propose une sale excuse pour ne pas faire ce que vous devez faire, mais vous tourner vers quelque chose de facile à faire. Et on va toujours se tourner vers ce qui est facile à faire et pas vers ce que l'on doit faire. Il y a une chose qui est encore plus facile que faire, c'est ne pas faire, en se donnant des excuses bidons. Il y a une trentaine d'années maintenant, moi je me souviens d'avoir appris quelque chose qui m'a guidé toute la vie. Je suivais des cours dans une école de commerce, puis le prof a eu cette phrase pour nous dire que ce n'était jamais la personne qui était en face de nous qui ne comprenait pas, mais nous qui expliquions, qui disions mal. Et ça, ça a changé ma vie avec les autres, mon regard avec les autres. C'est-à-dire que, à moins d'avoir quelqu'un en face de très borné et très con, ce qui peut arriver, hein, j'ai toujours le moyen de pouvoir reformuler, exprimer de nouveau ce que j'ai loupé, à faire entendre, puisque je pars du principe que c'est toujours moi, ou c'est souvent moi, dont part le problème. C'est parce que j'ai mal exprimé, je me suis mal exprimé, que l'autre a mal entendu et mal interprété. Okay, il n'y a pas de mal à pouvoir se dire ça. C'est un problème de langage, c'est un bug d'expression, il y a un problème de compréhension. C'est-à-dire que j'ai exprimé quelque chose que l'autre n'arrive pas à comprendre parce que je ne parle pas correctement son langage. Ça ne veut pas dire que je parle une autre langue, mais un petit peu. Et même si j'ai l'impression de parler correctement son langage, je peux m'autoriser à dire qu'il a mal compris parce que je me suis mal exprimé. Il n'y a aucun mal à ça, c'est un peu d'humilité, ça fait du bien à tout le monde. Et j'aime aussi, pour illustrer ça, une métaphore de la langue étrangère. On est beaucoup à pouvoir parler plus ou moins une langue étrangère, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand ou ce que vous voulez. Et si je veux m'exprimer face à quelqu'un qui est natif de la langue, okay, le mec il connaît parfaitement sa langue, et je veux parler avec lui, il peut souvent y avoir des chances de problèmes de compréhension. Pourquoi ? Vous commencez à comprendre ici que le problème risque surtout de venir de moi, qui maîtrise moins bien la langue que lui. Il peut nous arriver de vouloir placer un mot qu'on découvre dans une phrase et qu'on a trouvé on a trouvé la traduction sur notre téléphone chéri, et puis que le mot qu'on trouve, on l'a jamais dit, donc on risque de mal le prononcer, avec un accent qui est pas exact, ou il peut y avoir une connotation aussi qui est proche et qu'on appelle un faux ami. Et en fait, l'autre ne comprend pas la même chose. Et lui, pourtant, il parle la langue, donc a priori, il sait. Et je vous parle de ça parce que ça m'est arrivé. Donc il faut comprendre aussi que chaque langue a des subtilités de prononciation qui sont dues au positionnement de la langue, à l'utilisation de la bouche. Et c'est très vrai, par exemple, pour les Russes, les langues asiatiques, les langues arabes, où il y a des choses que nous, occidentaux, français, on va avoir du mal à prononcer. Et c'est pareil à l'inverse. Et donc le mot peut être complètement différent, peut avoir une connotation qui est complètement différente au niveau de la prononciation. Donc pour ma part, un jour, moi je rencontre un Américain, on engage une conversation, puis je suis assez content de moi parce que ça me permet de parler l'anglais, puis ça me fait plaisir, donc je commence à parler rapidement de développement personnel, et puis il me semble que c'est justement ce mot développement personnel que j'ai inclus dans la conversation, donc genre personal development ou un truc dans le genre. Et en face, j'ai le mec qui il fait une tête bizarre et vraisemblablement, il ne comprend pas. Pourtant, moi, j'étais persuadé d'être dans le vrai, d'avoir une bonne prononciation et d'avoir le bon mot. Et puis, je m'étonne qu'en face, le mec, il comprend pas. Et puis, intérieurement, même, je commençais à me dire qu'il était un peu bête parce qu'il comprenait pas ce que je disais. Mais pourtant, c'était clair. Je répète plusieurs fois, tu sais. Et vous imaginez parfaitement la situation. Mais en fait, c'était pas lui qui comprenait pas, c'est moi qui m'exprimais mal. C'était simple. Et j'ai su quelques temps après, alors je sais plus si c'était dans la conversation ou pas, il me dit, on a réussi à se comprendre, il me dit, ah oui, c'est ça. Et c'était un mot qui était différent, qui était plutôt self-help, self-improvement. Tu vois, je vais même pas essayer de le dire là, parce que j'ai un problème aussi d'utilisation de la langue. Je ne m'entraîne pas suffisamment pour pouvoir avoir un accent qui est suffisant pour être compris. On va dire que 90%, 95% du temps, on arrive à se faire comprendre. Mais tout ça pour dire, pour avoir cette image, puisque le fond, à la limite, on s'en fout, mais de dire que on peut accepter le fait que on transporte mal ce qu'on dit ou ce qu'on fait et que l'autre peut ne pas comprendre et c'est pas forcément de sa faute. Donc pour comprendre le concept, en fait, je dois être capable d'admettre que lorsque mon interlocuteur ne peut ne pas comprendre, c'est plutôt lui qui a raison et moi qui me trompe. Et puis après cet intermède qui a pu être un petit peu long, on va revenir sur le rapport à soi, le rapport à l'action et le rapport aux autres. Donc avoir un bon équilibre dans le rapport à soi, accepter de se connaître, être honnête avec soi-même, c'est important, savoir agir et donc oser agir, savoir s'affirmer, avoir le droit de demander de l'aide, maîtriser l'autocritique et donc me rendre compte que je peux me tromper en acceptant l'échec. Donc pour pouvoir avoir un bon équilibre de confiance et d'estime de soi, il faut être capable de pouvoir être en équilibre avec ces trois axes qui vont être contenus dans notre capacité à voir les choses sous un autre angle, à être flexible et être adaptable. Il faut être capable de savoir estimer notre propre valeur et avoir cette valeur en tête. Il faut être capable de se souvenir que cette valeur doit être respectée par les autres et que je dois aussi avoir le droit de pouvoir faire respecter mes valeurs. Et que c'est vrai en face, c'est vrai aussi pour l'autre. Je dois respecter ses valeurs à lui comme il doit respecter les miennes. Et tout ça, ça nous permet de nous accepter et de savoir nous faire respecter et être en accord permanent avec nos valeurs. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir à connaître nos valeurs, ça permet de renforcer considérablement notre estime. Donc savoir s'estimer, ça permet donc de se sentir valable, de se sentir capable d'être à la hauteur, de savoir que l'on est fiable. Ça nous permet de savoir prendre des initiatives. On peut s'autoriser à nous adresser aussi des signes de reconnaissance positifs, à nous récompenser. Tout ça, ça va permettre la qualité de nos actions, à avoir une bonne perception de ce que nous sommes capables de réussir et donc une bonne perception de nos succès. Et tout ça va nous apporter une stabilité émotionnelle, un équilibre mental, parce que on va pouvoir éviter d'être déstabilisé par ce que pensent les autres de nous. Car si on revient sur l'estime, puisque estimer c'est donner une valeur, c'est avoir une opinion sûre, j'ai beau être le plus fort du monde, réussir des choses extraordinaires, si j'ai 100 avis positifs et que j'ai un ou deux avis négatifs, il y a fort à parier que je vais vraiment retenir un ou deux avis négatifs et que ça va complètement me déstabiliser si je n'ai pas suivi le bon process de la confiance et de l'estime. Être capable de pouvoir avoir une estime de soi qui a été trouvée au fond de soi-même, ça va apporter une véritable confiance qui aurait été validée de manière interne. Et tout ça va me permettre de ne plus faire attention ou de beaucoup moins faire attention à ce que vont estimer les autres de moi. Ils ont le droit d'avoir une estime qui est positive ou négative. Et j'ai le droit aussi d'avoir ma propre opinion, ma propre estime, et de ne pas faire cas de l'estime et de l'opinion des autres. Voilà. Le secret du vrai changement, c'est de pouvoir concentrer notre énergie à construire notre avenir et non pas à lutter contre le passé. Il faut savoir accepter les choses. Cet équilibre entre ces trois axes dont je vous ai parlé, ça va aussi se faire avec le rapport à soi, en évitant de juger, en osant faire et en acceptant nos émotions sans les refouler. L'équilibre du rapport aux autres, il va pouvoir être amené en évitant les comparaisons, en faisant attention aux compétitions et aux jugements sociaux. Et de ce fait, les réseaux sociaux, vous imaginez bien que c'est une catastrophe. C'est super dangereux pour l'équilibre de l'estime et de la confiance. Vous vous rendez compte maintenant du poids que peut avoir pour beaucoup de personnes l'opinion des autres. Et à l'heure où je vous parle, Twitter a testé dans quelques pays la suppression des likes. Twitter a décidé de basculer sur un système qui est différent et qui affiche de manière simple que l'un de vos amis approuve ce que vous avez posté. Et ça va pas plus loin. Donc avoir un équilibre sur le rapport à l'action peut se faire en agissant souvent pour pouvoir banaliser la peur d'agir, la peur de faire. On va pouvoir banaliser le fait d'accepter de se tromper, d'accepter les échecs. Ok ? Savoir relativiser les choses pour pouvoir faire taire l'autocritique ou en tout cas avoir une juste autocritique. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de pouvoir se récompenser, de reconnaître ses réussites, quelles qu'elles soient, que ce soit des petites réussites ou des grosses réussites. Vous avez réussi à ranger votre placard, ben offrez-vous un petit gâteau, une glace, une bière, un verre d'eau, ou faites une pause et puis profitez du soleil, allez sur le balcon et hop, on s'étire, on fait 5 minutes de pause. Et on est tous influencés par nos doutes. Et ces doutes, ils vont devenir notre propre barrière, nos propres barrières pour nous empêcher de faire. Donc renforcer l'estime et la confiance en soi, ça va nous permettre de ne plus voir la vie en problème, mais toujours en solution. Renforcer notre confiance et notre estime va pouvoir se faire en identifiant, en faisant face à nos peurs et à nos croyances limitantes. Il y a un truc qui fonctionne vraiment très bien pour renforcer notre confiance et notre estime, c'est l'utilisation de la visualisation, la projection des solutions et des résultats. Par exemple, pour pouvoir définir et visualiser nos objectifs, bah, il faut démarrer par un projet qui est fini. C'est-à-dire, j'imagine le projet fini. Par exemple, si je veux avoir un job nouveau ou une maison, je peux l'imaginer, projeter mon nouveau job, ma nouvelle maison. Et donc, je suis bien en train d'imaginer mon objectif réalisé et terminé. Ce qui va me permettre de savoir bah, de quelle manière je vais pouvoir commencer ou les actions que je vais devoir amener pour arriver à mon résultat fini. Et ça marche aussi pour le couple. Je peux imaginer ma relation, mon comportement idéal au quotidien avec l'être que j'aime. Je t'aime et je vais faire comme ci et comme ça et je l'imagine. Je m'imagine tous les jours, le matin, le soir, la journée. Voilà, je veux avoir des temps à moi, je veux avoir des temps avec toi. Et c'est vrai pour l'un et pour l'autre. Et en projetant de cette manière-là, mais vous êtes sûr de pouvoir avancer correctement. Et toutes nos difficultés, tous les problèmes que l'on a, toutes les dépressions, toute la tristesse qu'on peut avoir, elles sont créées, inventées par notre esprit. C'est nous qui créons tout ça. Personne d'autre que nous sommes capables de créer les images des choses négatives que nous avons en tête. Quels que soient les événements, c'est nous qui créons le ressenti que nous allons avoir. Personne d'autre que nous ne peut créer ce ressenti à part nous. Bon, ça vous paraît dingue, mais vous allez réfléchir et vous verrez que ça fonctionne comme ça. C'est surtout par l'autre, c'est impossible. Ce qui est possible, c'est simplement d'autoriser les pensées, les agissements des autres sur nous. Mais en aucun cas, ce ne sera la faute des autres. C'est bien nous, nous-mêmes, qui agissons et qui créons nos ressentis. C'est nous qui créons notre réalité. Okay. Donc si j'ai envie d'être heureux pendant une journée, c'est à moi de décider d'être heureux. Je vais avoir une pensée qui va être positive. Si j'ai décidé d'être triste, ou si je veux me laisser emporter par la tristesse, bah, toute la journée, je vais me laisser emporter par la tristesse. Mais c'est pas l'autre qui va décider pour moi. L'autre va pas dire tu vas être triste ou tu vas être joyeux aujourd'hui. C'est moi qui vais décider de le faire. Donc nous avons tous les ressources en nous-mêmes pour être capables de nous évaluer de manière positive et donc avoir une estime positive. Et nous devons vraiment concentrer nos efforts sur notre projet, sur notre avenir, à savoir comment faire pour pouvoir le réussir et comment amener le changement souhaité. Et la qualité de notre relation aux autres, elle dépend de la qualité de la relation qu'on va avoir avec nous-mêmes. On a le droit de nous affirmer et de ne pas être soumis ni passif. On a le droit de pouvoir amener un changement, d'agir en tant qu'exemple ou de manière exemplaire. Alors je ne dis pas ici qu'on doit être parfait parce que on peut pas être parfait. La perfection, ça n'existe pas. Hein, les enfants, l'intérêt, c'est justement de pouvoir s'améliorer sans cesse, parce que sinon, c'est chiant. On est parfait. Imaginez un monde parfait, c'est nul. Apprendre à s'affirmer, c'est apprendre à respecter et à faire respecter ses droits et ses valeurs. Donc, sans empiéter ni bafouer le droit des autres. C'est vrai aussi pour l'autre, car on a tous le même droit de respect de nos valeurs. Pour renforcer votre estime et votre confiance, vous devez être très clair. Vous devez être très clair sur vos objectifs. Vous devez être clair sur vos attentes pour vous et pour les autres. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne connaissez pas vos objectifs, ça ne fonctionne pas. Vous devez absolument respecter les autres et leurs valeurs. Vous avez le droit d'abandonner la soumission et les comportements passifs. Vous avez le droit d'être ferme, vous avez le droit d'être clair, d'être serein avec vos propos et avec vos actes. Vous avez le droit d'avoir des avis. Ce qui ne veut pas dire que vous devez être bête et hautain. Non. Mais regardez autour de vous, les gens que vous allez admirer, ce sont des gens qui sont clairs, ce sont des gens qui savent s'affirmer, et même s'ils sont différents, ils savent affirmer leurs différences, et c'est même la raison pour laquelle on les aime, pour laquelle on les apprécie, c'est parce qu'ils sont différents, c'est parce qu'ils savent affirmer leur identité. Et tout en ayant conscience que l'autre a le droit de refuser aussi cette identité. On a le droit d'avoir notre identité et puis de pas être conforme à la norme, à la masse. Et si vous ne plaisez pas à la première personne que vous allez avoir en face de vous, vous allez pouvoir certainement plaire à la personne qui est derrière, la personne que vous allez rencontrer ensuite. Donc, bah, y a pas de crainte à avoir. Et c'est parce que vous allez avoir une identité, parce que vous allez avoir confiance en vous, parce que vous allez avoir une estime de vous, que l'autre est capable de vous aimer, de vous faire confiance et de vous apprécier. Et c'est parce que vous savez que vous avez le droit de défendre cette identité que vous allez pouvoir prendre confiance. Car si vous effacez votre identité pour pouvoir faire comme tout le monde, bah, comment voulez-vous qu'on puisse vous apprécier par rapport à quelqu'un d'autre? Si vous êtes comme tout le monde, bah, qu'est-ce qui va faire de vous quelqu'un de différent, de plus appréciable, de plus remarquable, d'exceptionnel, voire? Si vous effacez ce qui fait le plus profond de vous, votre identité, ok, donc ça sert à rien, donc bah, soyez vous-même. Et puis, soyez vous-même, parce que de toute façon, les autres, ils sont déjà pris. Sacha Guitry. Ayez confiance en vous, affirmez-vous, connaissez-vous, soyez honnête avec vous-même, n'ayez pas peur d'agir, soyez cohérent, soyez congruent. Congruent, c'est faites ce que vous dites. Et puis, sachez faire face à ce qui vous dérange, sachez faire face à ce qui vous agresse, à ce qui vous gêne. C'est là où vous allez pouvoir progresser, c'est là où vous allez pouvoir prendre confiance, vous allez pouvoir faire tomber les barrières. Soyez ouvert à la différence, soyez ouvert aux comparaisons et aux compromis, mais sans abandonner votre savoir et votre identité. Sachez établir des relations qui vont être basées sur la confiance et non pas sur la domination. Moi, je suis plus fort que toi, toi, t'es moins fort que moi, etc. Non, l'autre est égal, je lui fais confiance. Acceptez que vous pouvez vous tromper. Acceptez aussi que l'autre peut se tromper. D'accord ? Il n'est pas con pour autant. L'idéal étant de voir l'autre non pas de manière inférieure ni de manière supérieure, ni comme un adversaire, mais une manière égale, parce que chacun, tout le monde, a toujours quelque chose à apporter à l'autre. Et là, vous pouvez me dire, mais bon, il y a des gens qui sont supérieurs, il y a des gens qui sont plus que nous. Bah, écoutez, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Il y a des gens qui peuvent être plus éduqués, plus instruits, mais rien ne nous empêche de nous élever au même niveau d'instruction. Et surtout, imaginons par exemple un médecin qui est capable de sauver des vies. Okay ? Imaginons qu'un jour, vous croisiez ce médecin, et puis ce type, il se sent mal. Bah, il se trouve que vous avez suivi des cours de secourisme, donc vous voyez où je veux en venir. Qui va être en mesure de pouvoir sauver l'autre et s'occuper de l'autre? Qui va être supérieur ou qui va être au moins égal? Ben c'est vous. Même si vous n'avez pas le niveau d'instruction du médecin, vous allez être capable de lui sauver la vie et d'être égal à lui. Donc j'espère que ce médecin ne s'est jamais senti supérieur à vous et que vous ne vous êtes jamais senti inférieur, parce que là aujourd'hui, ben vous êtes sur un pied d'égalité et vous pouvez même vous sentir supérieur à lui parce que vous allez lui sauver la vie. Et puis lui apporter de l'amour, lui apporter de toute la gratitude que... tout ce que vous savez et tout le partage que vous devez pouvoir apporter dans votre vie et dans la vie des autres. Donc vous voyez que chacun peut toujours apporter à l'autre, et ce, quel que soit l'âge. Il n'y a pas d'âge de plus, de moins, on fait confiance aux petits, on fait confiance aux plus vieux, et c'est comme ça qu'on dit qu'on peut toujours avoir besoin d'un plus petit que soi, puis je vous garantis que c'est la vérité. Donc pour pouvoir avoir confiance en vous, le process il est assez simple. Avoir une bonne estime de vous-même, connaissez-vous. Soyez honnête avec vous-même, pratiquez souvent, agissez souvent pour que ça devienne facile, pour pouvoir banaliser les erreurs et intégrer que si l'autre n'est pas content ou désapprouve, bah c'est pas votre faute, c'est sa réaction à lui et ça devient son problème. J'espère que j'ai pas été trop long, que ça va surtout vous être utile et on se retrouve pour une autre fois. Ciao.